Vous écoutez RTL.
Bonjour Rémi.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez déjà de la plus grande usine flottante du monde. Dans quelques heures, c'est une information RTL, la plateforme gazière géante Prélude, construite par des Français, va prendre la mer.
Oui, c'est le plus grand, le plus monstrueux objet flottant que l'homme a construit jusqu'alors. C'est un énorme paquebot à la coque rouge, mais énorme, hein, Yves. Il mesure 488 mètres, un demi-kilomètre de long. C'est plus qu'Harmony of the Seas. Le porte-Charles de porte-avions Charles de Gaulle à côté, c'est pas un rafio. Mais c'est deux fois plus petit. Le Prélude fait 90 mètres de hauteur. La construction dans un port de Corée est en train de s'achever. Jusqu'à 6000 ouvriers y ont œuvré. Et dans quelques heures, c'est une information RTL, des remorqueurs de haute mer ultra puissants, capables de faire bouger à eux seuls le poids de plusieurs tours Eiffel, vont emmener en mer cette ville flottante, cette usine sur l'eau qui sera opérée par Shell. 30 jours de navigation au large des Philippines, de l'Indonésie, puis de l'Australie, où l'usine va s'ancrer à 250 km des côtes, au-dessus d'un champ de gaz sous-marin.
L'idée, c'est quoi? C'est de liquéfier le gaz en mer, c'est ça?
Exactement. Si vous exploitez du gaz, Yves, imaginons vous devenez pétrolier, je ne suis pas sûr que vous ayez pensé, vous allez devoir installer vous allez devoir installer une plateforme pétrolière en mer, puis tirer un pipeline jusqu'à la côte, construire une usine de liquéfaction pour transformer le gaz, il y a du boulot, hein. Puis créer un port, sans doute des routes aussi, et un aéroport, car il y a des chances que vous soyez dans un pays, une zone qui manque d'infrastructures. Là, tout va se faire en mer, les méthaniers se rempliront en s'accrochant sur des bras de rechargement. C'est beaucoup moins cher, c'est plus facile d'obtenir les permis d'exploitation pour implanter une usine, il faut négocier avec les autorités locales. Là, il n'y a pas besoin de demander son avis aux baleines. Et puis, l'usine flottante, Yves, l'intérêt, c'est qu'elle est facilement délocalisable. Vous pourrez la bouger une fois que votre champ de gaz est épuisé. Bon, après, il y a des défis techniques, évidemment.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, faudrait pas que ça coûte trop cher, ce machin-là.
Ça coule surtout. Est-ce que ça peut sombrer? J'ai posé la question au papa de ce monstre marin, Alain Poincheval, directeur du projet, mené par la société technique FMC. Je l'ai appelé en Corée du Sud depuis son bureau. Pour encore quelques heures, il voit son gros bébé à quai. Quand je l'ai appelé, des volutes de vapeur sortaient des cheminées, des chaudières de refroidissement du gaz. Ça ne coulera pas, assure Alain Poincheval, tout en reconnaissant qu'effectivement, la construction de cette ville flottante peut s'apparenter quelque part à des défis dignes de la conquête spatiale.
On peut dire que nous, à notre échelle, on a marché sur Mars parce que le cahier des charges, c'est de résister à un cyclone de classe 5. C'est 300 à 400 km/h de vent. Katrina, c'était pas un 5, c'était un 4. Donc ce bateau-là, il est capable de rester en pleine mer, continuer à être opéré dans un cyclone de cette catégorie. Et donc tout de suite, ça vous dit, mais l'ancrage, il faut qu'il tienne. Dans un cyclone de ce type-là, le bateau descend et monte à moins 25 mètres et il va remonter de 25 mètres. Donc vous voyez l'amplitude de 50 mètres dans la houle. Voilà tous les challenges techniques qu'on a rencontrés.
Ouais, il a fallu notamment trouver des systèmes et des matériaux un peu flexibles, car sur l'eau, la plateforme va onduler un peu comme un spaghetti. L'usine flottante devrait commencer à produire à la fin de l'année. Elle fournira 3 600 000 tonnes de gaz liquéfié par an. Le gaz est notamment destiné au Japon, qui compense ainsi l'arrêt de certaines centrales nucléaires depuis Fukushima.
Rémi Sulmont.